fin, de notre pain, de notre vin, sont les tabernacles. Notre-Dame des Sions, ma bonne Sainte Vierge à moi, Notre-Dame des Sions, dont les anges sont les grillons aux terres, je reviens vers toi. Je reviens parmi les guérets pour gonfler de son souffle frais ma poitrine infâme et pour sentir au seuil du soir son âme comme un reposoir s'offrir à mon âme. Notre-Dame des Sions, ma bonne Sainte Vierge à moi, Notre-Dame des Sions, dont les anges sont les grillons aux terres, je reviens vers toi. Je reviens ayant rejeté mes noirs tourments de révolté, mes haines de Jacques, pour que sa grâce arrive en moi, comme le Dieu que l'on reçoit quand on fait ses Pâques. Notre-Dame des Sions, ma bonne Sainte Vierge à moi, Notre-Dame des Sions, dont les anges sont les grillons aux terres, je reviens vers toi.
Bonjour, vous écoutez bien Radio Libertaire sur 89.4 FM. Et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, une rediffusion de séquences qui datent de juin 2018 pour la plupart, mais également de séquences plus récentes. On va commencer avec les maternelles de Joliot-Curie qui nous font des comptines. Puis on écoute les expressions françaises déchiffrées et décryptées par les CM2A de Langevin. Enfin, on écoute l'exposition Taïsir Batnidji qui avait été visitée au Macval par les CE2A de l'école Thorez. Et après cette rubrique artistique, on écoutera le petit correspondant du théâtre fait par les sixièmes du collège Molière. C'est une interview de Sidi Bémol. Et enfin, une histoire pour terminer. La marque de l'hiver, c'est fait par toutes les classes de l'école Thorez. Sans oublier le mot de la fin. Bonne écoute.
Qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois. Comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts.
La musique, c'est chic.
La Cette année, à l'école maternelle Joliot-Curie, ça déménage. Une année de comptines et de chansons que les petits et tout petits ont voulu vous faire partager. Tout d'abord, ils se présentent.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes la maternelle. Taout.
Yann.
Ryan.
Nadir.
Mémena.
Kali.
Luca.
Ometambule.
Moussa.
Demarère.
Chami.
Kunta.
Tavine.
Abigail.
Aya.
Angelina.
Et puis, ils chantent des créations originales.
Je vais chanter la chanson de la France.
Et des classiques incontournables.
On va chanter une sourivette.
Une sourivette qui courut dans l'air.
Autre classe, autre classique.
Oud, Olga, Joël, Manon,
Pom, Chanteuse,
Tara,
Oye,
Ayou,
Samamatou,
Isol.
Et pour terminer, tous à la douche.
Gina,
Laura,
Naël,
Charlie,
Yassine,
Misef,
Jean-Pacouti,
Sophia,
Samy.
La douche.
Maintenant, normalement, vous savez ce que ça veut dire. Mais la langue française regorge d'expressions, parfois étranges, parfois compliquées à comprendre. Heureusement, nos camarades de CM2 de l'école Paul Langevin vous proposent leur expertise pour vous permettre de décrypter le sens de quelques-unes de ces expressions de la langue française. C'est parti!
Des papillons dans le ventre.
Des papillons dans le ventre.
Des papillons
dans le ventre.
Des papillons dans le ventre.
On a tous
des papillons dans le ventre.
Bonjour chers auditeurs,
nous sommes ravis et fiers
de vous présenter
le premier numéro
des papillons dans le ventre,
une mini-séquence
dans laquelle nous vous proposons
de revenir
sur des expressions
de la langue française.
On entend souvent de drôles de phrases
dans lesquelles
les pieds sont en compote,
on devient vert de peur
ou rouge comme une tomate.
Parfois c'est la main qui devient verte.
Parfois même certains demandent la lune
ou donnent leur langue au chat.
Certains posent des lapins. D'autres jettent l'éponge.
Certains se creusent la tête.
Et d'autres tombent dans les pommes.
Et certains jours, il pleut des cordes.
Quand on les entend pour la première fois,
ces phrases peuvent sembler
bien énigmatiques. Nous vous proposons aujourd'hui
notre analyse d'expert
pour vous expliquer
ce que signifient
ces drôles d'expressions.
Bonjour, nous sommes des élèves de CM2A
de l'école
Paul Langevin.
Notre maître est le formidable Maxime Moignet.
On lui fait un petit coucou.
Bonjour, je m'appelle Wassim, je suis accompagné d'Adam.
Bonjour à tous.
De Marius.
Salut.
Et de Lina.
Salut chers auditeurs.
Aujourd'hui, nous allons parler des expressions de la langue française. Je vais laisser la parole à mon collègue Marius, expert en linguistique.
Je te remercie, mon cher Wassim. Et en effet, aujourd'hui, j'ai choisi l'expression « tomber dans les pommes ». Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire « tomber dans les pommes » ?
C'est quand on n'est pas bien, quand on fait un malaise.
Ouais, c'est que tu tombes dans des pommes.
Bah, s'évanouir.
Bah, comme elle s'évanouir.
Ouh là 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 là. Mes camarades ont de l'imagination, mais rétablissons la vérité. Chers auditeurs, au Moyen-Âge, on disait « tomber dans les pommes » avec un accent circonflexe sur le « a ». Issu du vieux français « se pâmer », qui veut dire encore aujourd'hui « perdre connaissance, s'évanouir ». Je vais maintenant vous donner un exemple. Marius, mange ton petit déjeuner, sinon tu vas tomber dans les pommes.
Il pleut des cordes. Ça veut dire quoi selon vous ?
Qu'il pleut beaucoup et qu'on dirait que des cordes tombent.
Quand il pleut hyper fort et ça fait des grosses flaques.
Bah, qui pleut comme vache qui pisse.
Un peu comme cet hiver à Ivry.
Bien pour l'imagination. Certains ne sont pas loin de la vérité. Que signifie « il pleut des cordes » ? Ce ne sont pas des cordes qui tombent du ciel, mais cela veut dire qu'il pleut beaucoup. Mais écoutez plutôt l'exemple suivant. Prends ton parapluie, Adam. Il pleut des cordes aujourd'hui, à Ivry. Nous disons donc « il pleut des cordes », car quand il pleut beaucoup, nous voyons des traits d'eau qui remplace les gouttes. C'est plus clair pour vous ?
Quelqu'un sait ce que ça veut dire, donner sa langue au chat ?
Je sais.
C'est ne pas répondre, de ne pas savoir.
Genre tu donnes ta langue à un chat ?
Non. Ça veut dire ne pas connaître la réponse, c'est du voilà. Coup on te l'a dit.
Certains auraient mieux fait de donner leur langue au chat. Bon, je vais remettre un peu d'ordre dans ces interprétations farfelues. Au 19e siècle, les chats étaient considérés comme des gardiens des secrets. Quand on ne connaît pas une réponse à une devinette, on donne la parole au chat pour qu'il nous aide à répondre. Donner sa langue au chat, ça veut donc dire renoncer à répondre parce qu'on trouve la question trop difficile. Et le chat, bien sûr, il ne répond pas beaucoup plus que nous. Adam, quelle est la capitale de l'Italie ?
Je ne sais pas.
Réfléchis bien.
Mais je ne sais pas, moi.
Allez, donne la réponse, quoi. Dépêche-toi.
Je donne ma langue au chat, Lina. Alors donne-moi la réponse.
La capitale de l'Italie, Adam, c'est Rome, évidemment.
Avoir les pieds en compote, qu'est-ce que ça veut dire selon toi ?
Ça veut dire que tu sens plus tes pieds ?
Je sais pas.
Avoir les pieds un peu... Avoir les pieds qui sont qui tiennent pas debout.
Avoir les pieds tout mous.
Avoir les pieds tout mous.
Ça veut dire qu'on a tous les pieds dégourdis.
Avoir les pieds qui puent.
On a des guilis dans les pieds quand on a des fourmis dans les pieds.
Ouh là 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 là. Moi, c'est la tête que j'ai en compote. Après toutes ces explications pour le moins étranges, à mon tour de vous expliquer l'expression « avoir les pieds en compote ». L'expression est composée du terme « en » issu du latin « in » qui signifie « dans » et du mot « compote » du latin « composita » qui signifie « composé ». Le terme « compote » provient du secteur culinaire et désigne en mai composé d'aliments finement coupés. Au Moyen-Âge, une compote désignait un entremets sucré découpé en petits morceaux. Au sens figuré, en compote se rapporte ici à une partie du corps humain sans force, ramollie. Avoir les pieds en compote signifie donc avoir les jambes fatiguées et avoir mal aux pieds. Maman, c'est encore loin. J'ai les pieds en compote, moi.
On est bientôt arrivé, Wassim. Un petit effort, du nerf.
Classe des CE2
de l'école Maurice Thorez B. Le mardi 7 décembre,
nous avons visité une exposition au Magval.
L'exposition présentait les œuvres
de l'artiste Taïzir Beit Nigé.
Arnaud Beigel, qui a guidé les élèves dans l'exposition, leur a proposé de commencer par un dessin. Si vous voulez essayer, posez une petite feuille sur votre cahier de brouillon. Prenez un crayon de couleur et suivez les instructions.
C'est bon ? Tout le monde a une couleur ? Tout le monde a un crayon ? Alors, en fait, je vais faire toujours le même geste. Je vais aller de gauche à droite en faisant un trait. Et ce que je veux, c'est que ma feuille, elle prenne toute la couleur du crayon. Donc je fais des traits comme ça pour vraiment recouvrir absolument tout le blanc avec la couleur. Vous y arrivez ?
Ça va être long.
Ça va être long, mais non, ça va pas être long. Je vais derrière. Pas à bien voir.
Regarde, pour une fois qu'on peut dépasser.
Oui, tout à fait, pour une fois qu'on peut dépasser.
Thank you.
Est-ce qu'on comprend quand on voit ça qu'il y avait eu un papier ici et que le papier a été enlevé? Et là aussi, là, on voit bien la petite feuille qui a été enlevée. Alors comment on pourrait appeler ces traits-là? C'est une forme, c'est vrai. En même temps, ce n'était pas vraiment la forme qu'on voulait faire. C'est un peu ce qui est resté après la forme. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une trace? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une trace en général? Eh bien oui, complètement. Donc c'est une trace.
Tahir Badjine est né en 1966 à Gaza.
Il y est resté
jusque dans les années 1990.
Il a étudié dans une école d'art en Cisjordanie.
Quand il a pu voyager,
il est allé en Italie
avant de s'installer à Paris.
Il n'a pas pu retourner dans son pays. Son travail parle de la vie de son pays d'origine.
Mais aussi
de la disparition,
de l'exil et du fait que rien ne dure éternellement.
Nous avons commencé la visite
par l'œuvre pas perdue.
Tahir Baitneji.
Des calques à même le sol.
Des empreintes de pas par frottement.
Ainsi, il récupère les traces
des semelles de chaussures incrustées dans le bitume.
La deuxième œuvre
était frontière.
Elle était toute jaune. Ça faisait penser à du sable et au soleil.
L'œuvre sans titre
est faite de 177 portraits de personnes mortes dans 100 pays
entre 2001 et 2014.
Est-ce que vous avez remarqué que si vous vous balancez, il se passe quelque chose au niveau des visages? Vous arrivez à vous balancer d'un pied sur l'autre comme ça? Je ne vois pas tout le monde le faire. Est-ce que choisissez un visage et quand vous vous balancez, dites-moi si vous voyez quelque chose qui change?
Oui. De ce côté, on voit plus clair. Et si on va par là, on va plus foncé.
Tout à fait. Il a réussi à avoir une technique où finalement, on voit le visage. Et puis à un autre moment, en fait, avec le jeu de reflets, le visage va disparaître.
Une autre œuvre montrait des savons empilés,
gravés de l'expression.
Rien ne dure éternellement.
Oui.
Je vois des gens en train de faire des photos et un mariage.
Ah, tu vois un mariage? Alors, c'était très fort parce qu'effectivement, il est parti de photos d'un mariage. Et c'est pas n'importe quel mariage, c'est le mariage de son frère. D'accord? Mais comment il est passé de la photographie à ce dessin-là, je vais vous l'expliquer parce qu'on ne peut pas deviner.
sur la photocopie d'une photographie.
Il a creusé les contours des formes humaines.
Les traces sur le papier apparaissent quand on est auprès.
De loin, elles disparaissent et on voit que du blanc.
Alors, c'est un mariage, et on avait dit c'est le mariage de son frère, donc c'est la propre famille de Taïsir. Mais Marakari, il nous dit, en fait, ça parle de gens qui sont morts. Et c'est vrai, en fait, le frère de Taïsir, il est mort. Donc finalement, à travers ces dessins-là, c'est une manière, en fait, de vouloir garder le souvenir de son frère. Quand on était de loin, on ne voyait pas les personnes. Ils sont morts, on ne les voit plus. On s'approche, ah, on a l'impression qu'on va les voir. On se reconnecte un petit peu avec eux. On retrouve un petit peu le souvenir. On s'éloigne, hop, c'est parti, ils ne sont plus là. Hein, voilà. Alors, c'est une idée intéressante parce que justement, il essaye de travailler sur le souvenir. Mais c'est vrai que le souvenir, c'est quelque chose d'un petit peu fragile. Hein. Et d'ailleurs, une des choses qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour se souvenir, justement, c'est la photographie. Hein, ça nous aide à nous souvenir.
Je me souviens que j'avais 3 ans et que j'étais en petite section. Je me souviens que je l'ai trouvé dans mon placard.
Je me souviens que c'était mon anniversaire et que j'avais 6 ans et que c'était un gâteau au chocolat. Et que c'était le meilleur jour de ma vie.
Je me souviens que j'avais 3 ans et que c'est ma mère qui a pris la photo et que c'est ma mère qui me l'a donnée.
Je me souviens que j'avais 14 mois. Ma grande sœur m'avait donné cette photo de moi quand j'étais petite. J'étais calme, douce et fragile. Je suis la troisième de ma famille. Quand j'avais 14 mois, je n'ouvrais pas beaucoup les yeux. Je les fermais avant 5 minutes. Ce jour-là, on était allé au parc pour que je prenne l'air. Et on est rentré pour faire ma sieste.
C'était la photo de classe. Même j'étais en CE1 chez maîtresse Marion.
Si vous voulez évoquer un moment disparu, par la gravure, à la manière de Taïsir Bait Nidji, suivez nos conseils. Première étape, choisissez une photo qui rappelle des moments disparus. Deuxième étape, vous pouvez la photocopier sur du papier très fin, comme Taïsir, ou alors décalquer la photo sur du papier calque. La taille idéale est la taille d'un grand cahier. Troisième étape, posez votre photocopie ou votre calque sur une feuille de papier à dessin assez épaisse. Avec un crayon de papier, repassez les contours des personnages. Lorsque vous regarderez la feuille à dessin, de loin, vous ne verrez rien. Mais en vous approchant, vous pourrez voir les traces d'un moment disparu.
La visite nous a plu. À bientôt pour une autre exposition.
Studio de Radio Cartable.
Avant de passer à la musique séchique, nous allons écouter les Indes galantes de Rameau dans la version jouée par l'Opéra de Paris dans une chorégraphie de Bintou Dembélé.
Thank you.
Après les petits, voici les moyens de l'école Joliot-Curie. Profitez bien, chers auditeurs, de cette petite pause musicale.
Bonjour à tous.
Nous sommes en moyenne section
à l'école Joliot-Curie.
Notre maître est Pierre.
On apprend des choses.
Bientôt, on va être en grande section.
Et maintenant, on va vous dire
comment on s'appelle.
Je m'appelle David.
Bonjour, je m'appelle Emma.
Bonjour, je m'appelle Mamadi.
Je m'appelle Eddie
Ayuba.
Bonjour, je m'appelle Sarah.
Bonjour, je m'appelle Marco.
Coucou, je m'appelle Alassane.
Coucou, je m'appelle Ada.
Coucou, je m'appelle Tigida.
Bonjour, je m'appelle Adam.
Bonjour, je m'appelle Atiaman.
Bonjour, je m'appelle Lina.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Tambin.
Nous allons vous chanter
une chanson.
Voici gribouille la grenouille qui monte à l'escalier. Il faut bien qu'elle se débrouille, l'ascenseur est caché. Et hop, il marche, gribouille est fatigué. Voici gribouille la grenouille qui monte à l'escalier. Faut bien qu'elle se débrouille, l'ascenseur est cassé. Et hop, une marche. Et hop, deux marches. Gribouille est fatiguée. Voici gribouille la grenouille qui monte à l'escalier. Il faut bien qu'elle se débrouille, l'ascenseur est cassé.
Décollage imminent pour la Berbérie, Sidi Bémol vous parle tout de suite de l'Odyssée de Foulaï, chant berbère antique qu'il avait présenté l'année dernière au théâtre Antoine Vitez. Pour le plus grand plaisir de nos petits correspondants, restez bien à l'écoute.
Prêt à voyager en Berbérie avec Sidi Bémol, l'interview du poète, c'est tout de suite sur Radio Cartable.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitez.
La classe de 6e B du Collège Molière.
Nous sommes actuellement au studio de Radio Cartable
en présence de Sidi Bémol,
notre invité.
Nous sommes venus pour lui poser quelques questions
sur le spectacle L'Odyssée de Foulaï,
chant berbère antique.
Merci à nos camarades d'école primaire
de nous avoir laissé une petite place pour faire notre interview
dans leur émission hebdomadaire.
Radio Cartable.
Bonjour cher invité, merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici.
Bonjour à tous, bonjour les enfants, et merci de m'avoir accueilli.
L'histoire que je vais raconter est ancienne, très très ancienne.
«
L'histoire se passe en Berbérie, le pays des hommes libres, Imaziran.
Comment avez-vous trouvé le thème de ce spectacle ?
Alors, le thème du spectacle, en fait, j'ai travaillé avec un poète qui a écrit plein de chansons sur la mythologie, sur l'Antiquité en Algérie. Et donc, j'ai enregistré un disque. Et puis, je me suis dit que ce serait bien de faire un peu plus qu'un disque. De faire quelque chose, soit un petit dessin animé, soit un film, soit... Et à un moment, c'est l'idée d'une pièce de théâtre qui est venue. Donc après, j'ai écrit l'histoire. C'est une histoire qui relie toutes les chansons qui avaient été enregistrées. Voilà.
D'où vient ce conte musical ?
Voilà, donc ça revient un peu à la question précédente. C'est-à-dire que c'est un conte qui relie les 12 chansons de l'album. Et après, bon, ces chansons, elles parlent de l'Antiquité. Il y a beaucoup de héros mythologiques qui sont communs à toutes les civilisations méditerranéennes. On les retrouve en Algérie, en Grèce, en Égypte, en Espagne, un peu partout. Par exemple, le Chéron, le passeur des âmes, etc. La déesse de la beauté, tout ça. Et donc, c'est un conte que j'ai imaginé pour relier toutes ces chansons. En même temps, ça parle d'un artiste qui fait une fausse pièce, et donc ça, son œuvre d'art, il se demande qu'est-ce qu'elle vaut, et puis ça l'entraîne vraiment un peu partout.
D'où vient la culture berbère et qu'a-t-elle de particulier pour vous ?
Alors la culture berbère, en fait, les berbères, c'est les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord. Ça va de la Libye jusqu'à donc Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, un petit peu le Tchad aussi. Les gens qui ont été là depuis toujours, c'est les Berbères. Et à travers avec l'histoire, c'est-à-dire ils ont perdu un peu de leur le coutume et de leur langue, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les autres peuples de la Méditerranée. Il y a eu l'arrivée des chrétiens, ensuite des musulmans, etc. C'est-à-dire la culture berbère, c'est la culture la plus ancienne. Mais elle s'est elle s'est un peu diluée avec l'arrivée des autres grandes cultures qui ont occupé tout l'espace méditerranéen, en fait. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, il reste encore... c'est-à-dire la plupart des berbères, aujourd'hui, ils parlent arabe. Mais il reste des régions où il y a encore des langues berbères très anciennes qui subsistent. Qui sont toujours parlés, par exemple en Kabylie, au Maroc aussi, au Rif, chez les Chaouis, à Tamanrasset, les Touaregs, tout ça, ils ont gardé un petit peu la langue berbère d'origine.
En combien de temps avez-vous monté ce spectacle ?
En fait, l'écriture des chansons, elles ont commencé il y a à peu près 4 ans. Ensuite, l'écriture du conte lui-même, il a commencé il y a à peu près 2 ans. Ensuite, les répétitions, elles ont commencé il y a 1 an. Après, le dernier sprint, on va dire, ça a duré dans les 3 derniers mois avant le spectacle. Donc en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Bien sûr, j'ai pas travaillé tout le temps sur cette pièce, parce que j'ai aussi d'autres concerts, j'ai d'autres activités à côté. Mais disons, ça fait 4 ans que j'ai commencé vraiment ce travail.
C'est surprenant parce que moi, je fais du théâtre et on monte pas en 4 ans un spectacle. Nous, on n'écrit pas, non.
Le temps le plus long, c'est l'écriture, en fait. Parce qu'on imagine l'histoire, après, c'est-à-dire l'histoire, elle est modifiée tout le temps, jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait jusqu'à ce qu'on se dise, c'est vraiment ça que je veux faire sur scène, c'est vraiment, l'histoire se tient bien, je pense que c'est équilibré, ça va bien avec les chansons, etc.
Pourquoi ce spectacle et pas un autre ?
Oui, c'est une très très bonne question. En fait, quand on fait quelque chose, en général, on a toujours des buts. On écrit une pièce de théâtre ou une chanson, mais dans le fond, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut communiquer avec les autres, il y a une raison, toujours, c'est vrai. Et moi, dans ce travail, moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est vraiment le fait que les pays du Maghreb et les pays d'Europe, et les pays aussi de la Turquie, le Moyen-Orient, tous ces pays ont une histoire commune et partagent beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes, beaucoup de héros comme ça qui ont existé ou pas, on ne sait jamais, on ne sait pas. Mais qui sont, c'est-à-dire qui sont vraiment communs à tous ces peuples de la Méditerranée. Et c'est-à-dire dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui réunissent les gens que de choses qui les divisent, en fait. C'est pour ça que c'est ça qui m'a guidé dans la création de ce spectacle. Donc c'est pour ça que dans le spectacle, il y a Hercule, il y a Vénus, il y a plein de divinités qui sont vraiment communes un peu partout. Voilà.
Votre spectacle a-t-il une part autobiographique ?
Autobiographique, il y a toujours forcément une part d'autobiographie. Parce que quand on raconte, quand on invente des histoires, on se base sur des choses qu'on a lues ou sur des choses qu'on a vécues. Donc bon, ça ne veut pas dire que je suis un dieu de la mythologie qui est revenu sur Terre, etc. Mais dans la façon de raconter, vous voyez, les petites anecdotes, les petites blagues et tout ça, je les ai un peu personnalisées. Elles sont inspirées un peu d'anecdotes que j'ai vécues moi-même.
Les chansons que vous avez choisies servent-elles uniquement d'illustration ou ont-elles un côté affectif ?
Elles servent, en fait, les chansons, elles sont chantées en kabyle, elles racontent un petit peu l'histoire qui est racontée en français. C'est-à-dire, si on écoute uniquement les chansons et si on est kabyle, on comprend à peu près l'histoire qui a été racontée en français. Voilà. Après, c'est des chansons qui sont tirées du répertoire traditionnel. Donc c'est vrai, tu as raison, il y a une part vraiment très très affective. J'ai choisi les mélodies. Par exemple, j'ai choisi des berceuses que chantait ma mère, ou des chansons qu'on entendait dans les fêtes de mariage, etc., quand on était petit. Donc le choix s'est fait de façon vraiment très subjective, très affective, effectivement.
Comment vous trouvez l'inspiration ? Vous vous inspirez d'où ou de quoi ?
Vraiment de... Je pense vraiment de tout, quoi. De ce qu'on peut vivre, tout ce qui arrive. Les gens qu'on rencontre. Parfois on discute comme ça avec des gens, quelqu'un nous raconte son histoire... Et elle tourne dans la tête, et puis ça devient une chanson, ça devient... Des fois, quand on rencontre des gens, par exemple, ou qu'on voit des choses, on ressent des sentiments. Et ces sentiments, ils peuvent se transformer après en mélodie. On essaye de les transformer soit en dessin, soit en mélodie, soit en chanson.
Est-ce que vous avez fait d'autres œuvres avant celle-ci ?
D'œuvres de théâtre, vous voulez ? Non, c'est la première fois que je fais que je travaille vraiment sur une pièce de théâtre. Avant, c'était surtout de la musique. Donc, des concerts, j'en ai fait plein, des concerts. Mais ça a toujours été des concerts. Alors, dans les concerts, c'est vrai que parfois, je présente un peu les chansons. Avec des petites histoires, des petites blagues. Mais ça dure, on va dire, une minute avant chaque chanson. Mais là, c'est la première fois que je fais un travail où je raconte une histoire pendant une heure, avec des chansons, etc.
Est-ce que vous avez écrit d'autres histoires dans ce genre-ci ?
Oui, des histoires, oui, j'en ai écrites. C'est des... Il y a une histoire, par exemple, j'ai écrit une histoire sur un marin kabyle qui a... Si on est comme ça, en Méditerranée... une histoire aussi sur... quelqu'un qui joue vraiment tous les jeux de grattage, de loto, de machin, il se ruine comme ça, en essayant de gagner, il perd en fait toute la richesse qu'il avait, des choses, des histoires comme ça. Des petits contes, pour faire aussi des petites bandes dessinées.
Quel est le rôle des instruments de musique dans le spectacle ?
En fait, le spectacle, c'est un conte qui a été écrit à partir de chansons. Ça, il y avait 12 chansons. Donc au départ, le spectacle, c'est 12 chansons, 12 musiques. Après, elles ont été reliées par une histoire, par un conte. Le conte est venu après. Donc le conte a été écrit, en fait, sur la base de la musique, en vérité. Il a été inspiré par la musique. Et au final, en fait, le conte est rythmé par la musique. Et à chaque fois, c'est comme des épisodes. Comme ça, il y a un épisode, une partie de l'histoire. Il y a une musique qui arrive pour faire une petite pause, pour laisser un peu l'action s'imprégner dans la tête du spectateur, et ainsi de suite. Et ça rythme un peu tout le spectacle au final.
Combien d'instruments avez-vous utilisé ?
Alors, les instruments utilisés, en fait, il y avait des percussions, il y avait beaucoup de percussions. Il y avait un tabal, il y avait un bendir, il y avait une grosse caisse, il y avait des maracas, des cloches, etc. Un triangle. Après, il y avait un piano, un xylophone, un petit xylophone. Il y avait une flûte, et il y avait une guitare et une clarinette. Voilà.
Pourquoi avoir choisi des instruments modernes plutôt que les instruments traditionnels que nous avons découverts ensemble ?
Oui. En fait, les chansons sont des chansons traditionnelles. Et les mélodies, si on les chante juste... D'ailleurs, il y a une chanson dans le spectacle que je chante sans aucun instrument. C'est vraiment juste... C'est au moment où le héros est au bord de la rivière de l'oubli. Et il chante tout seul comme ça. Donc les mélodies à l'origine sont comme ça. Après, l'habillage instrumental, on peut les jouer de façon très très traditionnelle, juste avec une percussion. On peut aussi ajouter d'autres sonorités pour les rendre, je ne vais pas dire plus modernes, c'est pas ça, mais plus, je pense, plus accessibles aux gens qui écoutent. Parce que je pense, hein, je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais je pense que si je fais un spectacle où pendant une heure, je ne chante que des chansons de façon traditionnelle, ça peut être lassant pour celui qui écoute. Par contre, si de temps en temps, j'introduis un peu de piano, un peu de clarinette, un peu de flûte, etc., je pense que ça va faire un peu plus de variété et un peu plus d'image aussi dans celui qui écoute et qui regarde. Ça fait travailler un peu plus son imagination. Voilà.
Devinette mathématique. Mathématique. Mathématique.
Bonjour, nous sommes la classe de CM1 de l'école B Maurice Thorez. Notre maîtresse s'appelle Nathalie Medeville. Nous allons vous présenter des devinettes mathématiques.
Dans le studio de Radio Cartable, il y a Didi.
Bonjour, je m'appelle Didi. Bonjour les spectateurs et spectatrices. Aujourd'hui, on est là pour vous faire des devinettes mathématiques.
Il y a Jessada.
Salut à tous, je m'appelle Jessada.
Il y a Caroline.
Bonjour, je m'appelle Caroline.
Hello. Il y a Jérémia.
Hola, je m'appelle Jérémia.
Il y a Antou.
Bonjour tout le monde.
Et moi, Anna. Nous allons vous présenter des devinettes mathématiques. Il y a 4 chiffres, des devinettes et vous devrez les deviner.
Pour jouer à notre jeu, vous aurez besoin soit d'une ardoise, soit d'un crayon à papier, ou soit d'une feuille.
Je suis Caroline et je vais vous présenter ma première devinette. Je suis un nombre à quatre chiffres. J'ai 728 dizaines.
Excuse-moi, Caroline, je n'ai pas très bien entendu.
D'accord, Jérémia, je vais répéter. J'ai 728 dizaines. Le chiffre des unités est le double de celui des centaines.
Caroline, article, je ne comprends rien.
Le chiffre des unités est le double de celui des centaines. Qui suis-je ? Bon courage !
Je suis Antou. Je vais vous présenter ma devinette. Je suis un nombre à quatre chiffres. Mon nombre à 374 dizaines.
Comment tu peux répéter ?
D'accord, Caroline. Mon nombre à 374 dizaines. Mon chiffre des unités est le double du chiffre des dizaines.
Quel double ?
Mon chiffre des unités est le double du chiffre des dizaines. Qui suis-je ? Bon courage.
Bonjour, je m'appelle Anna et je vais vous présenter ma devinette. Je suis un nombre à quatre chiffres. J'ai 123 dizaines.
Je n'ai pas très compris, Anna. Tu peux répéter ?
D'accord, en tout. J'ai 123 dizaines. Le chiffre des unités est le double du chiffre des centaines.
Si j'ai bien compris, le chiffre des unités est le double du chiffre des centaines.
Oui, c'est ça. Le chiffre des unités est le double du chiffre des centaines. Qui suis-je ? Bonne chance et bon courage. Au revoir.
Bonjour les amis, c'est encore moi Didi. Je vais vous présenter ma devinette. Je suis un nombre à quatre chiffres. Mon chiffre des unités est 0. Et j'ai 90 centaines.
Tu ne parles pas fort, tu peux répéter s'il te plaît
Didi. Mon chiffre des unités est 0 et j'ai 90 centaines. Mon chiffre des dizaines est la moitié des 12.
Je ne comprends un petit peu rien. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît, Titi ?
Bon, d'accord, Anna. Mon chiffre des dizaines est la moitié de 12. Qui suis-je ? Bon courage, les amis.
Bonjour, je m'appelle Jetsada. Aujourd'hui, je vais faire la devinette des mathématiques. Je suis un nombre à quatre chiffres. J'ai 523 dizaines.
Tu peux répéter, Jetsada ? Je n'ai rien compris.
D'accord, Didi. J'ai 523 dizaines. Le chiffre des unités est le double du chiffre des dizaines.
Je n'ai rien entendu, Jetsada. Tu peux répéter encore ?
D'accord, Didi. Le chiffre des unités est le double du chiffre des dizaines. Qui suis-je ? Bon courage et réfléchissez bien.
à tous, je suis encore là. Je vais vous présenter ma devinette. Je suis un nombre à 4 chiffres. Le chiffre des dizaines est 4.
Tu peux ralentir un tout petit peu, s'il te plaît, Jérémia ?
Pas de problème, Jexada. Le chiffre des dizaines est 4. Le chiffre des centaines est la moitié de 4.
Comment j'ai pas entendu ?
Oui, Jexada, je peux répéter. Mon chiffre des centaines est la moitié de 4. Mon chiffre des milliers est 9.
Je comprends bien.
Pas de problème, Jexada, je vais le répéter. Mon chiffre des milliers est 9. Mon chiffre des unités est le double des dizaines. Qui suis-je ?
Tu peux répéter encore une fois, s'il te plaît.
Mon chiffre des unités est le double des dizaines. Qui suis-je ? Je sais que vous êtes tous forts en mathématiques. Vous pouvez réussir.
Bonjour, c'est encore moi. J'ai une autre devinette pour vous. Je suis un nombre à 5 chiffres. J'ai 3258 dizaines.
Caroline, je suis sourde. Tu peux répéter, s'il te plaît.
D'accord, Jérémia. J'ai 3258 dizaines. Le chiffre des unités est le double de celui des milliers.
Caroline, répète, j'ai une oreille bouchée.
Le chiffre des unités est le double de celui des milliers. Qui suis-je ? Bon courage à tous !
J'espère que nos devinettes vous ont plu.
N'hésitez pas à nous envoyer vos solutions.
On dit au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Radio Cartable.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je salue et remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Marie Cizin et à son nouveau livre 10 Villa Cagliardini, publié aux éditions Arléa. Marie Cizin vit entre la Bretagne et Paris. Elle est aussi peintre et reste très attachée à la mémoire, à la présence et j'allais dire à l'intelligence des lieux. Ici, elle nous relate son attachement à ce qui fut la matrice de son enfance, cet appartement situé à Paris dans le 19e arrondissement. Porte des Lilas. Ce récit fait écho à d'autres récits publiés par Marie Cizin. Je pense notamment à La Maison de Bretagne ou même à ce recueil de nouvelles publié en 2023, Les petits personnages, où la petite histoire rejoignait la grande histoire. Marie Cizin est un écrivain accompli et c'est un bonheur de lire cette œuvre de la maturité. Son univers pictural et romanesque puise son inspiration au creux de cette lumière si particulière que le temps donne parfois à nous souvenirs. Mais je laisse à l'auteur le soin de vous en dire un peu plus sur ses voyages intérieurs. Marie Cizin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier un récit assez passionnant aux éditions Arléa, 18 Villa Gagliardini. C'est un récit, ça pourrait être un roman, mais vous avez eu l'honnêteté d'ailleurs d'indiquer ce mot récit, parce que finalement c'est assez rare. Maintenant, on fait un petit peu le méli-mélo entre fiction, réalité, et beaucoup d'auteurs. Et là, c'est vraiment un récit qui est d'ailleurs très émouvant. C'est un choix de votre part ou de votre éditeur ?
Alors, c'était très difficile. D'emblée, j'ai dit à mon éditeur, c'est pas un roman, c'est un récit tout à fait authentique, tout est vrai. Et alors, on a hésité, est-ce qu'on va mettre récit ? Et puis, les réactions des lecteurs m'ont éclairée. Tout le monde parle de mon roman. Pourquoi ? Parce que c'est écrit comme un roman, il y a des chapitres, il y a un certain rythme, il y a un certain suspense, étant donné qu'on se demande comment ça va tourner pour cette petite fille et pour sa famille. Donc, on le lit comme un roman. Donc, très hypocritement, nous avons joué le jeu, mon éditrice et moi. On n'a pas mis récit, on n'a pas mis roman, et chacun choisit ce qu'il veut. Mais il faut savoir que tout est vrai de A à Z.
Oui, tout est vrai, c'est ce qui fait, Marie Cizin, l'émotion qu'on a à vous lire, puisqu'on vous retrouve enfant. Alors, votre récit commence par une citation d'une phrase de Marguerite Duras, de La vie matérielle. « Les enfants ne regardent pas les maisons, ils ne regardent pas plus que les parois de chair qui les enferment lorsqu'ils ne voient pas encore, mais ils les connaissent. C'est quand ils quittent la maison qu'ils la regardent. » Donc, c'est un regard a posteriori, c'est un regard dans le rétroviseur, on pourrait dire. Est-ce que Marguerite Duras est un écrivain qui a compté pour vous, Marie Cizin?
Moi, c'était un point de départ. D'abord, c'est en lisant Marguerite Duras que j'ai osé écrire